Chapitre 8. Sa reine avait décliné l'offre de son oncle. Aussi tentant que cela paraisse d'emménager chez lui comme il l'avait proposé, elle avait réussi à prendre pied au palais. La cour était une source sans pareille d'informations, l'aristocratie aréloise un réservoir sans fond de commérages et d'intrigues. Si elle voulait pouvoir affronter le Giorn, elle allait devoir se tenir au courant. Au lendemain de sa rencontre avec Kihin, elle se procura un chevalet, des toiles, une palette, et s'installa au beau milieu de la salle du trône.
« Oh nom de Domu, qu'est-ce que vous fabriquez encore, jeune fille ?»
s'écria le roi en arrivant ce matin-là, flanqué d'un groupe d'aides anxieux. Elle leva les yeux de sa toile avec une fausse surprise.
« Je peins, père !»
Elle brandit le pinceau pour souligner ce point, criblant de gouttelettes écarlates le visage du chancelier de la Défense. Yadon soupira.
« Je vois bien que vous peignez. Pourquoi le faites-vous ici ?»«
Oh !» soupira-t-elle innocemment. « Je peins vos peintures, père. Je les aime tellement. »«
Vous peignez mes peintures ?» demanda-t-il avec un air perplexe. « Mais... »
Elle tourna son chevalet avec un sourire fier pour montrer au roi ce qui n'évoquait que de loin un bouquet de fleurs.
« Par Domu !» s'époumonna-t-il. « Peignez si ça vous chante, jeune fille, mais pas au milieu de ma salle du trône !»
Sa reine ouvrit grand les yeux, scia plusieurs fois, se leva et traîna son tabouret et son chevalet près d'une des colonnes. Là, elle se rassit et continua de peindre. Yadon gémit.
Je voulais dire... Domu maudisse les artistes. Je perds mon temps avec vous.
Il se détourna et se dirigea vivement vers son trône en ordonnant à son secrétaire d'annoncer le premier sujet de l'ordre du jour. Une dispute entre deux nobliaux sur divers biens. Haché descendit vers le chevalet.
« J'ai bien cru qu'il allait vous expulser, madame, » murmura-t-il.
Elle secoua la tête avec un petit sourire satisfait. « Yadon n'a aucune patience. Plus je le convaincrai de mon idiotie, moins il me donnera d'ordre. Il sait que je les comprendrai de travers et qu'il finira exaspéré.
Je commence à me demander comment un tel individu a pu accéder au trône.
« Bonne question. » Sa reine se tapota la joue. « Mais peut-être que nous le sous-estimons. Ce n'est sans doute pas un très bon roi, mais il paraît doué en affaires. Et pour lui, je ne suis qu'une ressource épuisée. Il a eu son traité. De ce fait, il n'a plus besoin de s'intéresser à moi. »«
Je ne suis pas convaincue, madame. Il a la vue trop courte pour rester roi bien longtemps. » »«
En effet, il risque fort de perdre son trône, d'où la venue de ce Giorn. »
« Bien observé, madame, »
approuva le Séon de sa voix grave. Il se porta devant la toile, dont il étudia les taches de couleur et les lignes presque droites.
« Vous progressez. »
« Pas de condescendance, je te prie. »
« Non, votre Altesse, je parle sérieusement. À vos débuts, il y a 5 ans, je n'avais aucune idée de ce que vous essayiez de représenter. »
« Et ceci représente ?»«
Une coupe de fruits ?» demanda-t-il avec espoir.
Sa reine émit un soupir de frustration. Elle excellait en tout d'ordinaire. Or, le secret de la peinture se dérobait à elle. Étonnée par son manque de talent, elle s'était obstinée, mais la technique artistique avait refusé de se plier à sa volonté royale. Elle maîtrisait les arcanes de la politique, possédait le charisme naturel des grands chefs et comprenait sans mal les mathématiques jindoèses. Par ailleurs, elle était un peintre exécrable. Pourtant, cela ne l'arrêtait pas. Elle était aussi têtue comme personne. Un de ces jours, Haché, la lumière se fera et je découvrirai comment matérialiser sur la toile les images dans ma tête.
Bien sûr, madame.
Elle sourit. D'ici là, disons que j'ai reçu l'enseignement d'un membre d'une école svordoise d'abstractionnisme.
Ah oui, l'école de la désorientation créative. Très bien, madame.
Deux individus pénétrèrent dans la salle du trône afin de soumettre leur litige au roi. Ils ne se différenciaient guère, tous deux portant une veste à la mode sur une chemise à franges colorées et un pantalon ample. Sa reine s'intéressa au troisième homme, qu'un garde escortait. D'un blond aonique typique et vêtu d'un sarrau marron tout simple, il était d'une maigreur épouvantable. Son regard désespéré la hanterait fort longtemps. Le litige impliquait le paysan. Il avait fui l'un des deux nobles 3 ans plus tôt, mais l'autre l'avait capturé. Au lieu de le rendre, il l'avait gardé et fait travailler. La dispute ne le concernait pas lui, cependant, mais les 2 enfants issus de son mariage 2 ans plus tôt chez le second noble. Chacun des aristocrates se prétendait propriétaire des nourrissons.
« Je croyais l'esclavage illégal en Arellon, » souffla-t-elle.
« Il l'est, madame, » répondit Haché d'un ton perplexe. « Je ne comprends pas. Il parle de propriété au sens figuré, ma cousine, » dit une voix devant elle.
Sa reine se pencha de côté pour regarder derrière sa toile. Lukel, le fils aîné de Kihin, se tenait près de son chevalet, souriant.
« Lukel, qu'est-ce que vous faites ici ?»«
En tant que l'un des marchands les plus prospères de la ville, » expliqua-t-il en contournant le chevalet pour étudier le tableau avec un sourcil haussé, « je suis toujours le bienvenu à la cour. Je m'étonne que vous ne m'ayez pas vu en entrant. »«
Vous étiez là ?»
Il hocha la tête. Vers le fond, en train de renouer avec de vieilles relations. Je m'étais absenté quelque temps.
Pourquoi n'avoir rien dit?
Ce que vous faisiez me fascinait. Il sourit. Je ne crois pas que quiconque ait jamais décidé de réquisitionner la salle du trône pour y installer son atelier d'art.
Sa reine se sentit rougir. J'ai réussi mon coup, hein?
À la perfection. Ce qui n'est pas le cas du tableau.
Il marqua une pause.
C'est un cheval, n'est-ce pas?
Elle se rembrunit.
Une maison, peut-être? Ce n'est pas non plus une coupe de fruits, messire, dit Haché. J'ai déjà émis cette hypothèse.
Ma foi, elle a dit qu'il s'agissait de reproduire l'une des peintures de cette pièce. Il nous suffit de les passer en revue jusqu'à trouver la bonne.
Brillante déduction, maître Lukel, dit le Séon.
Vous avez fini tous les deux?
Marmonna sa reine.
Voyez celle en face de nous.
Là? Demanda Lukel. Mais elle représente des fleurs.
Et?
Qu'est-ce que c'est que cette tache sombre au centre de votre toile?
Des fleurs?
Répondit la jeune femme, sur la défensive.
Oh!
Il considéra le tableau, puis son modèle.
Si vous le dites, ma cousine.
Expliquez-moi donc l'affaire portée devant Yadon avant que je n'use de violence, mon cousin,
suggéra-t-elle avec une douceur menaçante.
Entendu, que voulez-vous savoir?
Nos études nous affirment que l'esclavage est illégal en Arellon, mais chacun de ces nobles se prétend propriétaire de ce paysan.
Lukel fronça les sourcils et considéra les plaignants.
Oui, l'esclavage est illégal, mais il ne va sans doute pas le rester. Si l'on remonte 10 ans en arrière, il n'y avait ni aristocrates ni paysans en Arellon, juste les élantriens et les autres. Au cours de cette décennie, les gens du commun, qui possédaient leurs propres terres, sont devenus des fermiers inféodés à des seigneurs, puis des serviteurs sous contrat sylagmatique, et enfin des quasi-serfs tels qu'il en existait autrefois au Fjorden. Bientôt, ils ne seront plus que des biens.
Sa reine se rembrunit. Le simple fait que le roi accepte de juger un tel litige, envisage de retirer ses enfants à un homme pour laver l'honneur d'un noble, l'horrifiait. La société était censée avoir évolué. Le paysan observait les débats d'un regard terne, comme si on avait délibérément et systématiquement veillé à le priver du moindre espoir.
« C'est pire que ce que je craignais, »
dit-elle. Lukel hocha la tête.
Yadon, dès qu'il a occupé le trône, a annulé les titres de propriété. L'Arellon n'avait pas d'armée proprement dite, mais Yadon pouvait s'offrir des mercenaires afin de forcer les gens à lui obéir. Il a déclaré que les terres appartenaient à la couronne, puis il a récompensé ses soutiens parmi les marchands en leur distribuant titres et domaines. Seuls quelques-uns, dont mon père, possédaient trop de terres et d'argent pour que Yadon ose s'en emparer.
Sa reine sentit croître son dégoût. L'Arellon se targuait jadis de la société la plus heureuse et la plus avancée au monde. Yadon l'avait détruite, pour la remplacer par un système que même le Fjorden n'utilisait plus. Elle jeta un coup d'œil au souverain, puis se tourna vers Lukel.
« Venez !»
Elle entraîna son cousin vers un angle de la salle, assez près de Yadon pour l'observer, mais assez loin des autres groupes pour pouvoir parler librement, à condition de rester discret.
« Haché et moi nous demandions comment cet individu a réussi à conquérir le trône. »
« Yadon est quelqu'un de complexe, » Il peut se montrer d'une grande myopie dans certains domaines, mais il est très rusé dans ses rapports avec les gens. C'est ce qui fait de lui un bon marchand. Il dirigeait leur guilde avant le Réode, donc il était, de tous ceux qui n'avaient aucun lien avec Elantris, l'homme le plus puissant de la région. La guilde, une organisation autonome, avait des rapports plutôt conflictuels avec les Elantriens. Vous voyez, ceci nourrissait gratuitement les gens du coin, ce qui réjouissait autant la population que cela chagrinait les marchands.
Pourquoi ne pas importer autre chose que des aliments?
Les Elantriens fabriquaient presque tout, ma cousine. Et ce qu'ils ne donnaient pas, ils pouvaient en demander un prix bien inférieur à celui du marché, surtout compte tenu du coût d'expédition. En fin de compte, la guilde a passé avec eux un accord par lequel ils s'engageaient à ne fournir gratuitement que les articles de base, laissant les marchands importer les articles de luxe pour leurs clients plus fortunés, qui, ironie de la chose, étaient surtout les autres membres de la guilde.
Puis le Réode a frappé. Elle commençait à comprendre.
Oui, Elantris est tombée, et la guilde des marchands, que Yadon présidait, s'est retrouvée l'organisation la plus fournie et la plus puissante des quatre villes extérieures. Ses membres avaient de l'argent, et ils connaissaient tous les riches de la région. Qu'ils se soient opposés aux Elantriens ne les rendait que plus dignes de confiance. Yadon était le candidat naturel à la royauté, mais cela n'en fait pas un bon monarque.
Le souverain, sur son trône, statua enfin. Il déclara d'une voix forte que le paysan évadé appartenait bien au premier noble, mais que ses enfants resteraient au second.
« Car ils ont été nourris toute leur vie par leur maître actuel. »
Le paysan resta muet et courba l'échine. Sa reine sentit son cœur se serrer. Mais quand l'homme releva la tête, une lueur brilla dans ses yeux, derrière l'obéissance forcée. La haine. Il gardait la capacité d'éprouver cette émotion toute puissante. « Cela ne pourra jamais durer, » murmura-t-elle. « Les gens se révolteront. »
« Les travailleurs fjordels ont vécu des siècles durant sous la coupe du système féodal, » lui fit remarquer son cousin. « Et on les traitait plus mal que les animaux domestiques. »
« Oui, mais ils étaient nés en son sein. Ils n'avaient jamais connu de système différent. Ici, il en va tout autrement. 10 ans, c'est peu. Les paysans se rappellent un temps où ceux qu'ils appellent leurs maîtres n'étaient que des boutiquiers et des négociants. Surtout, ils savent qu'un gouvernement peut s'effondrer et faire des serviteurs les nouveaux maîtres.
Yadon leur a imposé un trop lourd fardeau trop vite.
Lucel sourit.
On croirait entendre le prince Raoden.
Vous le connaissiez bien?
C'était mon meilleur ami.
Le jeune homme secoua la tête d'un air peiné.
Je n'ai jamais connu son pareil.
Parlez-moi de lui, demanda-t-elle tout bas.
Il s'accorda un instant de réflexion, puis se lança dans sa réminiscence. Raoden rendait les gens heureux. Même si vous aviez passé une journée aussi triste qu'un hiver entier, quand le prince arrivait avec son optimisme en bandoulière, il lui suffisait de quelques mots pour que vous vous rendiez compte de votre bêtise. Et il était brillant. Il connaissait tous les ahons, il les dessinait à la perfection, et il échafaudait sans cesse de nouvelles théories philosophiques que père était seul à pouvoir suivre. Je n'en comprenais pas la moitié malgré mes études universitaires au Svorden.
À vous entendre, il n'avait aucun point faible?
Lucel sourit. Si, les cartes. Il perdait toujours quand on jouait au tous les doux, ce qui ne l'empêchait pas de me persuader de payer le dîner ensuite. Il aurait fait un marchand atroce. Il se fichait de l'argent. Il perdait volontiers au tous les doux parce qu'il savait que gagner me procurait le frisson de la victoire. Je ne l'ai jamais vu triste, ni furieux, sauf quand il se rendait dans une des plantations extérieures pour rendre visite aux petites gens. Il y allait souvent, puis il revenait à la cour et il disait tout ce qu'il avait sur le cœur.
« Je gâche que le roi n'appréciait guère, » dit sa reine avec un sourire en coin.
Il détestait ça. À part le bannir, il a tout essayé pour faire taire Raoden. En vain. Le prince trouvait toujours le moyen d'exprimer son opinion lors des prises de décision. Comme il était l'héritier du trône, la loi de la cour, rédigée par Yadon en personne, lui donnait la possibilité de donner son avis pour chaque affaire soumise au roi. Et ses réprimandes étaient elles aussi sans pareil. Il pouvait se montrer si virulent que les murs eux-mêmes se recroquevillaient.
Sa reine s'adossa à sa chaise pour goûter l'image de Yadon enguirlandé par son propre fils devant la cour tout entière.
Il me manque, reprit Lucel. Ce pays avait besoin de lui, et Raoden commençait à imprimer sa marque. Il avait réuni autour de lui un nombre appréciable de soutiens parmi les nobles. À présent, le groupe se fragmente. Père et moi avons tenté de reprendre le flambeau, mais je suis parti longtemps. Et rares sont ceux qui font confiance à Kiin, bien sûr.
Quoi ? Pourquoi donc ?
Il a une vague réputation de fripouille, et il reste manant. Il a refusé tous les titres que le roi a essayé de lui donner.
Elle haussa un sourcil. Un instant. Je croyais que l'oncle Kiin s'opposait au souverain. Pourquoi Yadon aurait-il essayé de lui donner un titre ?
Lucel sourit. Il n'y peut rien. Son gouvernement se fonde sur l'idée que la réussite financière justifie le rang. Père a du succès en affaires et la loi dit que l'argent égale la noblesse. Le roi a eu la bêtise de croire que tout homme riche penserait comme lui et qu'aucune opposition ne surgirait tant qu'il donnerait des titres nobiliaires à tous les individus fortunés. Le refus de père est un moyen de saper le règne de Yadon, et ce dernier le sait. Aussi longtemps qu'il y aura un riche non titré, le système aristocratique arélois demeurera imparfait. Le vieux Yadon manque de faire une attaque d'apoplexie chaque fois que père vient à la cour.
« Il devrait venir plus souvent alors, » dit sa reine d'un ton malicieux.
« Il ne manque pas une occasion de se montrer. » Raoden et lui se retrouvaient ici chaque après-midi ou presque pour une partie de Shinda, au grand déplaisir de Yadon que cela gênait de les voir dans sa salle du trône. Mais ses lois proclamaient que la cour était ouverte à qui son fils invitait, de sorte qu'il ne pouvait pas les jeter dehors.
Il semble que le prince ait eu un talent remarquable pour retourner les propres lois du souverain contre lui.
Un de ses côtés les plus attachants.
Lucel sourit.
Il arrivait à pervertir les décrets royaux jusqu'à ce qu'il se retourne contre le roi pour lui mordre le nez. Yadon a passé presque chaque instant des 5 dernières années à essayer de trouver un moyen de déshériter Raoden. Il s'avère que Domu a résolu le problème à sa place.
Domu, ou l'un des assassins du roi, songea-t-elle avec une suspicion croissante. Qui hérite désormais ?
Cela reste à déterminer. Yadon doit prévoir d'engendrer un second fils. Shen est encore assez jeune. Le suivant dans l'ordre de succession serait sans doute l'un des ducs les plus puissants, Messire Tel-Rii ou Messire Royal.
Ils sont ici ? Demanda sa reine en scrutant la foule.
Pas Messire Royal, mais il y a le duc Tel-Rii là-bas.
D'un coup de menton, il indiqua un homme à l'air pompeux près du mur opposé. Mince et droit, il aurait été beau s'il n'avait fait étalage de sa richesse. Ses vêtements scintillaient de gemmes, ses doigts d'or et d'argent. Quand il se détourna, sa reine constata qu'une énorme tache de naissance violine lui mangeait le côté gauche du visage.
« Espérons que le trône ne lui reviendra jamais, » dit Lucel. « Yadon, quoique déplaisant, est un gestionnaire avisé. Royal est avare. Tel-Rii, lui, est un panier percé. Il aime l'argent et ce qu'il lui en donne. » Il serait sans doute l'homme le plus riche d'Arelon s'il n'était si dépensier. Dans les faits, il n'est que la 3e fortune du pays, derrière le roi et le duc royal.
Sa reine fronça les sourcils. Le roi aurait déshérité Raoden et laissé son royaume sans héritier déclaré. Il ignore donc ce qu'est une guerre de succession. Son cousin haussa les épaules.
Il aurait préféré n'avoir aucun héritier que laisser le prince aux commandes.
Pas question que de petits détails comme la liberté et la compassion lui gâchent sa monarchie absolue.
Tout à fait.
Ces nobles qui suivaient Raoden, il leur arrive de se réunir ?
Non, ils ont trop peur de continuer sans la protection du prince. Nous avons persuadé certains des plus enthousiastes de se retrouver une dernière fois demain, mais je doute qu'il en ressorte quoi que ce soit.
Je veux assister à la rencontre.
Ces hommes n'apprécient guère les nouvelles têtes, ma cousine. Ils sont devenus très nerveux. On pourrait qualifier leurs activités de haute trahison, et ils le savent.
Ils prévoient de se voir pour la dernière fois. Que vont-ils faire si je m'invite ? Refuser de revenir ?
Lucel hésita, puis sourit.
Très bien.
Je préviendrai père, et il trouvera le moyen de vous faire admettre. Nous le lui dirons ensemble au déjeuner.
Sa reine posa un regard irrité sur sa toile, puis alla remballer son matériel.
Vous venez déjeuner, en fin de compte ?
L'oncle Kiin parlait de préparer un revertis fiordel. et après ce que je viens d'apprendre, je doute de pouvoir rester tranquille en écoutant les sentences de Yadon. Je risquerais de me mettre à jeter de la peinture sur la personne royale. » Le jeune homme eut un petit rire.
« Ce serait une mauvaise idée, princesse ou pas. »
Et Kaizé sera ravi. « Père met toujours les petits plats dans les grands quand on a des invités. » Il avait raison.
« Elle est là !»
s'écria Kaizé avec enthousiasme en voyant sa reine entrer.
« Père, il faut que tu prépares le déjeuner !»
Jala vient serrer Lukel dans ses bras et l'embrasser. Elle lui murmura quelques mots en fjordel, et il sourit en serrant avec affection l'épaule de son épouse sfordoise. Sa reine, envieuse, serra les dents. Princesse du Théode, elle n'avait pas le droit de déplorer les mariages d'État. Si Domu avait jugé bon de lui enlever son mari avant même qu'elle fasse sa connaissance, il devait vouloir qu'elle garde l'esprit libre pour autre chose. L'oncle Kiin émergea de la cuisine, fourra un livre dans son tablier et broya sa nièce dans une étreinte d'ours.
« Tu n'as donc pas pu t'empêcher de revenir. L'attrait magique de Kiin a été le plus fort, hein ?»«
Non, papa, elle a faim, c'est tout !» décréta Kaizé.
« Oh, ce n'est que ça. Eh bien, assieds-toi, Haine. Le repas sera prêt dans un instant. »
Le déjeuner se déroula de la même façon que le dîner de la veille. Kaizé se plaignit de la lenteur du service, Daorn tâcha de paraître plus mûr que sa sœur, et Lukel les taquina l'un et l'autre sans pitié, le devoir solennel d'un frère aîné. Adienne fit son apparition avec du retard, l'air distrait, en marmonnant des séries de nombres. Kiin apporta plusieurs plats fumants et excusa sa femme, retenue par un engagement antérieur. Sa reine prit grand plaisir à ce repas. La nourriture était délicieuse, la conversation agréable, jusqu'au moment où Lukel décida d'évoquer ses talents de peintre.
« Elle pratique une sorte de néo-abstractionnisme. »
déclara-t-il d'un ton des plus sérieux.
« Ah bon ?»
demanda Kiin.
« Oui, mais j'ai du mal à voir quelle position elle essaie d'adopter en représentant un bouquet de fleurs par une tache brune qui évoque vaguement un cheval. »
Sa reine rougit tandis que la table entière éclatait de rire. Son épreuve n'était cependant pas finie. Haché choisit de la trahir à son tour.
« Elle appelle cela l'école de la désorientation créative. »
expliqua le Séon de sa voix de basse.
« Je crois que la princesse se sent grandie lorsqu'elle crée une œuvre d'art qui met le spectateur au défi de comprendre quel en est le sujet. »
C'en fut trop pour Kiin, qui faillit tomber de sa chaise dans son hilarité. Les tourments de sa nièce s'achevèrent toutefois lorsque la conversation prit un tour un peu différent, dont elle retira quelque intérêt.
« L'école de la désorientation créative n'existe pas !»
les informa Kaizé.
« Non ?»
demanda son père.
« Il y a l'école impressionniste, l'école néo-représentative, l'école abstraite dérivative et l'école révisionniste, c'est tout !»«
Vraiment ?» lança Lukel, amusé.
« Oui, il y avait le mouvement réaliste, mais c'est pareil que l'école néo-représentative, ils ont changé de nom pour se donner de l'importance. »«
Arrête de crâner devant la princesse !»
marmonna Daorn. Sa sœur prit la mouche.
« Je ne crâne pas, je montre que je suis instruite, moi !»«
Oh si, tu crânes! En plus, l'école réaliste n'a rien à voir avec l'école néo-représentative !»« Daorn, arrête de contredire ta sœur !» ordonna Kiin. « Kaizé, arrête de crâner !»
La fillette fronça les sourcils, s'adossa d'un air boudeur et parut se mettre à murmurer des mots sans suite.
« Que dit-elle ? » demanda sa reine, perplexe.
« Là ! Elle nous insulte en Jindoé !»
expliqua Daorn avec désinvolture.
« Une habitude à elle quand la discussion tourne à son désavantage !»«
Elle croit sauver la face en parlant une autre langue, » dit Lukel, « comme si cela prouvait qu'elle est plus futée. »
Aussitôt, le torrent verbal issu de la fillette blonde prit une nouvelle tonalité. Sa cousine tressaillit en s'avisant qu'elle parlait fjordel. Mais Kaizé, qui n'en avait pas fini, conclut sa tirade par une phrase stridente, accusatrice, dont l'accent évoquait le Duladen.
« Elle parle combien de langues ?»
lança sa reine, stupéfaite.
« Oh, 4 ou 5, à moins qu'elle n'en ait appris une autre dans mon dos, » dit Lukel. « Mais elle va bientôt devoir se limiter. Selon les savants svordois, le cerveau humain ne peut gérer que 6 langues avant de commencer à les mélanger. « Un de ses objectifs dans la vie, c'est de prouver que ses savants se trompent. » dit Kiin de sa voix rauque. et de manger toute la nourriture qu'on trouve en Arellon. »
Kaïsé dévisagea son père avec un reniflement de dédain, la tête haute, puis retourna à son repas.
« Ils sont tous les deux si... instruits !»
s'étonna sa reine.
« Ne vous laissez pas impressionner, » prévint Lucel. « Leur tuteur traite de l'histoire de l'art ces temps-ci, et chacun de ces deux loustiques travaille dur pour surpasser l'autre. »
« Il n'empêche !»
La fillette, toujours vexée, murmura dans son assiette.
« Répète un peu !» exigea Kiin.
« Je disais, si le prince était là, il m'aurait écouté, lui. Il prenait toujours ma défense. »«
Il faisait semblant !» dit Daorn. « Ça s'appelle du sarcasme !»
Kaïsé lui tira la langue.
« Il me trouvait jolie et il m'aimait. Il voulait m'épouser quand je serais grande. Une fois reine, je vous aurais jetée au cachot jusqu'à ce que vous admettiez que j'avais raison. »
« Il ne t'aurait jamais épousée, idiote !»
répliqua son frère en fronçant les sourcils. « Il s'est marié avec sa reine !» Kiin avait dû remarquer le visage défait de sa nièce, car il réduisit les deux enfants au silence d'un regard courroucé. Le mal était fait, cependant. Entendre parler du prince rappelait à sa reine sa douce voix encourageante qui franchissait la mer par Séon, et ses longues lettres décousues qui lui parlaient de la vie en Arellon et de la place qu'il comptait ménager pour sa femme. Elle était si excitée à la perspective de le rencontrer qu'elle était partie avec une semaine d'avance. Cela n'avait pas suffi, hélas. Elle aurait peut-être dû écouter son père. Alors même qu'il savait fort bien que le Théode avait besoin d'une alliance solide avec le nouveau gouvernement arellois, il n'avait consenti au mariage qu'à contre-cœur. Même si les deux pays avaient en commun un héritage racial et culturel, les contacts s'étaient raréfiés durant la dernière décennie. Le désordre consécutif au Réode menaçait toute personne associée aux Élantriens, et cela comprenait les membres de la famille royale théoise. Mais avec le Fjorden qui étendait de nouveau son influence, causant la chute de la République d'Uladen, il apparaissait clair que le Théode devait soit renouer les liens avec son ancien allié, soit affronter seul les hordes du Virne. Sa reine avait donc suggéré ce mariage. Son père, d'abord réticent, avait fini par plier devant les avantages. Il n'y avait pas de lien plus solide que ceux du sang, d'autant plus que l'union incluait le prince héritier. Peu importait que le contrat interdise un remariage, Raoden était jeune et robuste. Tout le monde pensait qu'il vivrait encore des décennies. Kiin lui parlait.
« Pardon, mon oncle ?»«
Je voulais juste savoir si tu avais envie de visiter Kai. Tu es là depuis 2 jours, il serait temps que quelqu'un te serve de guide. Je gage que Lucel adorerait s'en charger. »
Le mince jeune homme leva les mains.
« Navré, père, je serais ravi de faire découvrir la ville à notre belle cousine si Jala et moi ne devions aller marchander une cargaison de soie que nous comptons expédier au Théode. »
« La négocier ensemble ?» s'étonna sa reine.
« Bien sûr. »
Lucel laissa choir sa serviette sur la table et se leva.
« Jala est une négociatrice hors pair. »«
C'est la seule raison pour laquelle il m'a épousée. »
dit la Svordoise avec un petit sourire et un accent prononcé.
Lucel est marchand, il voit le profit partout, même dans le mariage.
En effet, il rit et prit sa femme par la main lorsqu'elle se leva à son tour.
Qu'elle soit aussi belle qu'intelligente n'a joué aucun rôle dans ma décision. Merci pour ce repas, père, c'était un délice. Bonne journée à tous.
Les deux époux n'avaient pas plutôt quitté la pièce en se dévorant du regard que Daorn fit mine de vomir.
Bah ! Père, tu devrais leur parler. Quand ils se font les yeux doux à ce point, j'ai du mal à manger.
Notre cher frère a la cervelle en bouillie, convint Kaïsé.
Patience, les enfants, dit Kiin. Il n'est marié que depuis 1 mois, laissez-lui du temps et tout reviendra à la normale.
Je l'espère bien, dit la fillette. Il me rend malade.
Sa reine songea qu'elle n'avait pas l'air très malade, à voir comment elle engloutissait le contenu de son assiette. À côté d'elle, Adienne continuait de marmonner. Il ne disait rien de bien compréhensible, à part les nombres qu'il récitait, et parfois un mot ressemblant beaucoup à Elantris, ce qui rafraîchit la mémoire de la jeune femme. Elle se tourna vers son hôte.
J'aimerais beaucoup visiter la ville, mon oncle, surtout Elantris. Je voudrais comprendre ce que tout le monde lui trouvait.
Kiin se frotta le menton.
« Ma foi, les jumeaux peuvent te servir de guide. Ils savent comment aller là-bas et ça m'en débarrasserait un peu. »«
Les jumeaux ?» Il sourit.
le surnom que leur donne Luquel.
Et qu'on déteste, dit Daorn. On n'est pas jumeaux, on se ressemble même pas.
Saren considéra les deux enfants, qui arboraient la même crinière blonde et le même air décidé, et sourit.
Pas du tout, non.
Le mur d'Elantris toisait Caé, sentinelle réprobatrice. En le longeant, Saren découvrit à quel point il paraissait colossal. Durant son séjour au Fjorden, les villes fortifiées l'avaient impressionné, mais aucune ne soutenait la comparaison. Le rempart était si haut, si lisse, qu'il ne pouvait d'évidence résulter du travail de mains humaines. Il arborait, sculpté dans la masse, d'énormes haons complexes dont beaucoup lui étaient inconnus, alors qu'elle se considérait comme plutôt instruite. Les enfants la conduisirent vers un immense escalier qui courait contre le mur. Superbement décoré, ponctué d'arches et de plateformes d'observation, ses marches elles-mêmes sculptées avec ostentation, il dressait ses volées successives avec une certaine arrogance. Il ne s'agissait pas d'un ajout ultérieur. On avait bâti cette paroi massive comme un ouvrage non de défense, mais de séparation. Les Élantriens possédaient sans doute une confiance illimitée en leur propre capacité pour édifier une fortification aussi stupéfiante et placer sur sa face externe un large escalier menant au sommet. Cette confiance s'était révélée injustifiée, puisque leur cité était tombée. Toutefois, elle n'avait pas succombé devant les envahisseurs, se remémora Saren. L'agent de sa destruction était tout autre, incompréhensible, le Réode. Saren s'arrêta à mi-chemin durant la longue ascension et s'accouda à la rambarde. Caé se donnait des airs, mais elle pâlissait de la comparaison. Ailleurs, la localité aurait semblé imposante. Face au caractère majestueux de sa voisine, elle paraissait minuscule, voire mesquine. Mesquine ou pas, se dit la jeune femme, c'est sur elle que je dois concentrer mes efforts. Elantris appartient au passé. De petites bulles de lumière flottaient le long de la face externe du mur. Les premiers séons, ou presque, que sa reine voyait dans la région. Elle ressentit une bouffée d'excitation, puis la mémoire lui revint. Jadis, le Shaod les laissait intacts. Désormais, lorsqu'un individu subissait la transformation, son Séon, s'il en avait un, devenait fou, en quelque sorte. Ceux-là erraient tels des enfants perdus. Elle devina que la ville les attirait une fois leur maître déchu. La jeune femme se détourna, hocha la tête à l'intention de ses cousins et reprit son interminable ascension. Même si elle se concentrait sur Caé, il y avait des aspects d'Elantris, sa taille, ses ahons, sa réputation, dont elle se devait de faire l'expérience par elle-même. Tout en poursuivant sa montée, elle palpa le sillon d'un ahon sculpté dans le mur, un sillon de la largeur de sa main. Quant au mur, il s'agissait, comme elle l'avait lu, d'un bloc unique, homogène. Il n'était pas sans défaut, cependant. L'énorme monolithe s'émiettait et se craquelait, particulièrement vers le haut. Des morceaux s'étaient détachés de la masse, laissant derrière eux des cavités irrégulières qui évoquaient des traces de morsures. Le mur n'en demeurait pas moins imposant, notamment pour quelqu'un qui se tenait sur son sommet et regardait en bas. La jeune femme se sentit prise de vertige. Oh là là ! Daorn empoigna le fond de sa robe.
« Ne t'approche pas trop du bord, sa reine !»«
Ne t'inquiète pas, ça va !» répondit-elle d'un ton hébété. Elle se laissa néanmoins tirer en arrière.
Haché, stationnaire auprès d'elle, luisait d'inquiétude.
« Ce n'était peut-être pas une bonne idée, madame. Rappelez-vous que vous supportez mal le vide. »
Absurde !
Elle retrouvait déjà son aplomb. C'est alors qu'elle avisa un groupe important non loin de là. Une voix perçante s'en élevait, qu'elle distinguait mal.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»
Les jumeaux échangèrent un regard perplexe en haussant les épaules.
« Je ne sais pas, » dit Daorn. « D'habitude, il n'y a personne ici à part les gardes, » ajouta sa sœur.
« Allons jeter un coup d'œil. »
Il lui semblait reconnaître l'accent de cette voix. Lorsqu'elle s'approcha du groupe, son soupçon se trouva confirmé.
« Le Kjorn !»
s'écria Kaizé.
« Je voulais le voir !»
Et elle fila dans la foule. Sa reine entendit des exclamations de surprise et d'irritation, tandis que la fillette se frayait un chemin en son sein. Daorn suivit sa sœur d'un regard envieux et fit un pas, puis tourna la tête vers la jeune femme et décida de rester là pour tenir son rôle de guide. Il n'avait aucun besoin de craindre de ne pas voir le Gjorn. Si sa reine était un peu plus réservée que sa cousine, elle était tout aussi déterminée à écouter Raten. Flanquée de son petit garde du corps, elle fendit, poliment mais fermement, l'assistance afin d'atteindre le premier rang. Campé sur une plateforme d'observation ménagée dans la rambarde du mur, le Gjorn tournait le dos à la foule, quoique selon un angle qui permettait aux spectateurs de l'entendre. Il parlait de toute évidence pour eux et non pour les Élantriens en contrebas. La jeune femme posa à peine un bref regard sur la cité. Elle l'étudierait plus tard.
« Regardez-les !»
ordonna Raten en désignant les victimes du Shaod.
« Ils ont perdu le droit d'être considérés comme des êtres humains !» Ce sont des animaux qui n'ont plus la volonté de servir notre seigneur Jadet. Privés de Dieu, ils ne savent suivre que leurs appétits. »
Elle fronça les sourcils. Selon les Déréti, seule la foi en Dieu, Jadet, en Fjordel, différenciait l'homme de la bête. Cette doctrine lui était familière. Son père avait veillé à ce que son éducation inclue une connaissance approfondie du Shuderet. Ce qui lui échappait, c'était qu'un Gjorn perde son temps avec les Élantriens. Quel intérêt pouvait-il trouver à dénoncer des gens déjà si marqués par l'opprobre? En revanche, sa reine estimait de son devoir de les défendre s'il jugeait bon de prêcher à leur encontre. Elle pouvait tâcher de déjouer les plans de son ennemi avant de les comprendre dans leur ensemble.
« Comme chacun sait, les animaux sont très inférieurs aux hommes pour le seigneur Jadet !»
clamèrent Athènes, qui poussait son discours vers sa conclusion.
Sa reine sauta sur l'occasion. Elle arbora un air confus, les yeux écarquillés, et lança, de sa voix la plus innocente et la plus aiguë, un seul mot.
« Pourquoi ?»
Elle avait posé sa question avec l'adresse durant l'intervalle délicat entre deux phrases, au moment idéal. Le Gjorn s'efforça de renouer le fil de son discours, mais l'interruption l'avait déstabilisé. Il se détourna, le regard dur, pour trouver qui l'avait si bêtement dérangé, et ne vit qu'une jeune femme à l'expression soumise et perplexe.
« Pourquoi quoi ?
Pourquoi les animaux sont-ils inférieurs aux humains pour Monsieur Jadet ?»
S'il serra les dents en entendant ce Monsieur Jadet, il choisit d'ignorer cet impair.
« Parce que contrairement aux hommes, ils ne peuvent obéir qu'à leurs appétits. »«
J'avais pourtant cru comprendre que Monsieur Jadet récompensait l'arrogance. »
murmura-t-elle, toujours l'image même de la confusion. Le soupçon flamboya dans le regard de Raten. Une telle rhétorique était un peu trop avancée pour une personne aussi simple que sa reine prétendait l'être. Il savait, ou en tout cas il se doutait, qu'elle se jouait de lui. Mais il devait répondre, au moins pour le bénéfice de l'assistance.
« Le seigneur, Jadet, récompense l'ambition, et non point l'arrogance, » dit-il avec prudence.
« Je ne comprends pas. L'ambition ne consiste-t-elle pas à servir nos propres appétits? Pourquoi Monsieur Jadet irait-il récompenser cela ?»
Le Gjorn était en train de perdre son public, il s'en rendait bien compte. Cette question rejoignait une vieille controverse théologique à l'encontre du Shuderet, mais les spectateurs de l'assistance ignoraient tout des disputes centenaires et des réfutations érudites. Ce qu'ils voyaient, c'était que quelqu'un posait des questions auxquelles Raten ne pouvait donner des réponses assez rapides ou intéressantes pour retenir leur attention.
« L'arrogance n'a rien d'un appétit charnel !» dit le Gjorn d'un ton sec,
en tirant parti de sa position en hauteur sur la plateforme pour prendre le contrôle de la discussion.
« Qui sert l'Empire de Jadet recevra sa juste récompense, ici et dans l'au-delà !»
Il jugea sa réponse excellente. Il avait réussi à changer de sujet, mais surtout à captiver de nouveau l'assistance. Tout le monde aimait les récompenses. Par malheur pour lui, sa reine n'en avait pas fini.
« Si nous servons Jadet, nos appétits sont rassasiés ?»«
Seul le Virn sert Jadet !»
répliqua le Gjorn d'une voix distraite, tout en envisageant la meilleure façon de réfuter les objections de la jeune femme. Sa reine sourit. Elle tablait sur l'erreur qu'il venait de commettre. Selon la doctrine d'Hérétie, un seul homme servait Jadet. La structure très hiérarchisée de la religion rappelait le féodalisme qui gouvernait jadis le Fjorden. On servait son supérieur qui lui-même servait son supérieur, et ainsi de suite jusqu'au Virne qui servait Dieu. Chacun servait l'empire de Jadet, mais un seul était assez saint pour servir Dieu. Une grande confusion régnait autour de cette nuance, et les prêtres d'Hérétie avaient coutume de corriger l'erreur. En faisant de même, le Gjorn offrait, hélas, une nouvelle occasion à son adversaire.
« Personne d'autre ne sert Jadet ?»
balbutia-t-elle.
« Même pas vous ?»
L'argument, absurde, constituait une interprétation erronée de la remarque de Ratten, et non une remise en question du Schuderet. Il n'aurait pas permis de sortir vainqueur d'une controverse religieuse avec un Gjorn s'il s'était agi de saper son enseignement. Mais la jeune femme ne voulait qu'induire une confusion suffisante pour ruiner l'effet du discours. Le grand prêtre vit aussitôt le piège et leva les yeux. Les réflexions qu'il était en train de mener, les plans qu'il était en train de dresser, tout cela ne servait plus à rien. Et la foule se demandait comment il allait répondre. Il s'efforça noblement de se couvrir, de ramener la conversation sur un terrain familier, mais sa reine tenait son public, et ce d'autant plus solidement qu'elle apparaissait comme une jolie jeune femme au bord des larmes.
« Que faire ?» finit-elle par demander en secouant la tête. « Je crains fort que les subtilités des prêtres n'échappent aux gens ordinaires comme moi. »
C'était terminé. Les gens commençaient à se détourner et à discuter. Beaucoup riaient des excentricités des prêtres et du caractère abstru des raisonnements théologiques. La plupart appartenaient à la noblesse. Le Gjorn avait dû consentir de gros efforts pour les persuader de monter au sommet du mur. Sa reine eut un sourire malicieux en songeant à l'énergie qu'il venait de gaspiller. Ratten regarda l'assistance qu'il avait tant peiné à réunir, se déliter. Il s'épargna la peine de reprendre la parole. Crier ou rager ne ferait qu'aggraver la situation. Chose surprenante, il se retourna pour adresser à la jeune femme un hochement de tête appréciateur. Jamais elle n'avait reçu une telle marque de respect d'un prêtre d'Hérétie. Celui-ci reconnaissait sa défaite face à un adversaire de valeur.
« Vous jouez un jeu dangereux, princesse, »
dit-il tout bas de sa voix tout juste nuancée d'un léger accent.
« Vous constaterez que je joue pour gagner, Gjorn.
J'attends déjà la prochaine manche. »
Il s'engagea dans l'escalier en faisant signe à un prêtre blond, plus petit, de le suivre. Le regard de ce dernier n'avait rien de respectueux, ni même de tolérant. Sa reine frissonna lorsqu'il se posa sur elle, brûlant de haine. L'homme serrait les dents et paraissait se retenir à grand-peine de la saisir par le cou et de la précipiter dans le vide. Cette éventualité lui donna le vertige.
« Inquiétant, cet individu !» dit Haché. « J'en ai déjà croisé de semblables, et je n'ai jamais goûté de telles rencontres. Une digue aussi mal construite ne peut que céder. »
En effet, il est à Onik, pas Fjordel. Peut-être le page ou l'assistant de Ratten.
Dans ce cas, espérons que le Gjorn saura maîtriser son animal de compagnie, madame.
Elle s'apprêtait à répondre quand un éclat de rire enfantin non loin d'elle l'interrompit. Baissant les yeux, elle découvrit Kaïsé qui se roulait par terre dans son hilarité. Apparemment, la fillette avait réussi à se retenir jusqu'au départ du Gjorn.
« Sa reine !» dit-elle en haletant. « C'était génial! Tu avais l'air si bête! Et sa tête, il est devenu encore plus rouge que papa quand je lui mange toutes ses douceurs, presque aussi rouge que son armure !»«
Je l'ai détesté !» déclara un Daorn solennel.
Campé entre la jeune femme et une échancrure dans le parapet, il regardait Ratten descendre l'escalier gigantesque.
« Il est trop... dur. Et il ne s'est pas rendu compte que tu jouais l'idiote ?»«
Si. »
Sa reine fit signe à Kaïsé de se relever et épousta la robe lilas de la fillette. Mais il ne pouvait pas le prouver, et il devait faire comme si j'étais sérieuse.
« D'après père, ce Gjorn veut tous nous convertir au Schuderet. »
reprit Daorn. «
C'est ce que dit Kihin ?»
demanda la jeune femme. Le garçon hocha la tête.
« Il a peur de le voir réussir. On a eu de mauvaises récoltes l'an dernier. Beaucoup de gens ont un garde-manger vide. Il y a les semailles ce mois-ci. Si elles tournent mal, l'hiver sera encore plus difficile. Et quand les temps sont durs,
On écoute volontiers quelqu'un qui prêche le changement. Voilà ce que dit Père.
C'est un homme sage. Sa reine réfléchit. La récente confrontation tenait bien du jeu. Avec leur esprit changeant, les témoins ne tarderaient guère à oublier le sujet du débat. Le Giorn avait forcément des projets à long terme, des projets concernant Elantris, et elle devait le percer à jour. Se remémorant le motif de son ascension, elle observa la cité en contrebas. Celle-ci avait été belle. L'aspect de ses bâtiments, le tracé de ses artères, l'harmonie qui s'en dégageait. Le tout semblait intentionnel, une œuvre d'art à grande échelle. La plupart des arches s'étaient effondrées, ainsi que bien des toits en dôme. Certains murs semblaient voués à une ruine prochaine, mais la jeune femme n'en restait pas moins sûre de son fait. Oui, cette cité avait été belle, jadis.
« Ils sont si tristes !»
Kaizé se dressait sur la pointe de ses pieds pour regarder par-dessus le parapet. « Qui donc ?»«
Eux !»
La fillette désigna Elantris. Elle montrait des gens, tapis là, ombre remuant à peine, presque camouflée dans l'obscurité des rues. Et si sa reine ne les entendait pas gémir, elle sentait leur souffrance.
« Personne ne s'occupe d'eux !»
reprit l'enfant. « Comment est-ce qu'ils mangent? Il doit bien y avoir quelqu'un pour les nourrir. » La jeune femme discernait juste assez les Elantriens pour estimer qu'ils étaient humains, ou du moins qu'ils en avaient la forme. Les témoignages qu'elle avait lus différaient sur ce sujet.
« Non, personne !»
répondit Daorn, sur son autre flanc.
« Il n'y a personne pour les nourrir. Ils devraient être tous morts, ils n'ont rien à manger.
Ils doivent se procurer de la nourriture quelque part. » Kaizé secoua la tête.
« Ils sont morts, sa reine. Ils n'ont pas besoin de manger. »
« Peut-être qu'ils ne bougent pas beaucoup, mais de toute évidence, ils ne sont pas morts. Regarde, ceux-là se tiennent debout. »«
Non. Eux aussi le sont. Ils n'ont pas besoin de manger ni de dormir, et ils ne vieillissent pas. Ils sont tous morts. »
La fillette parlait d'une voix grave qui ne lui ressemblait guère. « Comment le sais-tu ? » Sa reine aurait voulu attribuer les dires de Kaizé à une imagination enfiévrée, mais ses enfants s'étaient déjà montrés fort bien informés.
« Je le sais, voilà tout. Crois-moi, ils sont morts. »
La jeune femme sentit la chair de poule l'envahir, et elle se morigéna. Pas question de sombrer dans le mysticisme. Les Elantriens étaient certes bizarres, mais ils n'étaient pas morts. Il devait y avoir une autre explication. De nouveau, elle parcourut du regard la cité, en tâchant de chasser de ses pensées les remarques de la fillette. Elle avisa alors deux silhouettes moins pitoyables et plissa les yeux. Il s'agissait des Elantriens, mais l'un paraissait avoir la peau plus sombre. Quoique, accroupi sur un toit, il semblait actif, contrairement aux autres. Actif et différent.
« Madame ?»
Lorsque la voix soucieuse du Séon résonna à son oreille, sa reine se rendit compte qu'elle se penchait par-dessus le parapet. Elle tressaillit, baissa les yeux et jaugea soudain la hauteur à laquelle elle se trouvait. Sa vue se troubla et elle se sentit comme attirée par le sol qui ondulait tout en bas.
« Madame !»
L'exclamation l'attira de sa stupeur. Elle se recula en titubant, s'accroupit, les bras croisés autour de ses genoux, et prit de profondes inspirations.
« Haché, ne t'en fais pas, ça va passer. »
« Nous partons aussitôt que vous aurez repris vos esprits, » décréta-t-il d'un ton sans réplique.
La jeune femme hocha la tête d'un air distrait. Kaizé pouffa.
« Vous savez, vu sa taille, on s'attendrait à ce qu'elle soit immunisée contre le vertige. »